Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. D'ici quelques jours, la plupart des pays occidentaux observeront la fête commémorative chrétienne la plus importante. On se réjouira en famille, les maisons, les appartements seront garnis d'un arbre vert scintillant, décorés de guirlandes, de boules de Noël et de diverses décorations. Près de ce sapin, on installera sans doute une crèche avec le petit Jésus, entouré de Marie, Joseph, sans oublier l'âne et le bœuf. Certains auditeurs et auditrices m'écrivent qu'ils aiment entendre parler de Jésus. Mais le Jésus dont on leur parle est-il bien celui qui est décrit dans la Bible? Tant de livres ont été écrits sur lui, tant de légendes ont été fabriquées et accréditées dans l'opinion qu'elles finissent par étouffer la vérité. Le Jésus qui naquit à Bethléem, qui vécut à Nazareth et qui mourut à Jérusalem, était-il le Christ des croisades, des persécutions religieuses, de l'Inquisition, de tous les conflits déclarés en son nom? Tant de livres ont été écrits, tant de films ont été produits, basés sur la tradition chrétienne, qu'il est très difficile de se faire une idée exacte de ce que fut celui qui, alors qu'il était un dieu, décida d'abandonner sa divinité afin de mourir pour l'humanité. En effet, il ne pouvait pas rester un dieu, puisqu'un dieu ne peut mourir. L'apôtre Paul écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » La Bible en français courant traduit ce passage comme suit. « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme, il a accepté de vivre dans l'humilité, et s'est montré obéissant jusqu'à la mort. Enfin, la Bible de Jérusalem traduit, « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il légalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. » On inculque une fausse image de Jésus avec l'histoire de Noël et du petit Jésus dans la crèche. Pourtant, à cette époque de l'année, il est très courant d'entendre des commentaires à la radio et à la télévision confirmant que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Le Jésus que la tradition présente est un être faible, qui n'a pas développé sa virilité. Il est décrit comme un être délicat, presque efféminé. Souvent, il est représenté avec une longue robe et des boucles de cheveux retombant sur les épaules. Son visage est mince, son nez aquilin, ses yeux tristes et il porte une courte barbe frisée. Est-ce là la description que nous en fait la Bible? Absolument pas. Quand Jésus est-il venu au monde? Est-ce un 25 décembre? La Bible donne des indications quant à l'époque de sa naissance, sans toutefois en préciser la date. Si Jésus avait voulu que l'on célèbre son anniversaire, il aurait certainement indiqué à ses apôtres quel jour le célébrer. Cette omission montre que les disciples et le Christ n'étaient nullement intéressés par l'anniversaire de cette naissance. D'ailleurs, les premiers chrétiens n'attachaient aucune importance aux anniversaires, leur célébration n'était que coutume païenne. La nouvelle encyclopédie catholique Théo écrit à la page 928, je cite, « On ignore le jour et l'heure de la naissance de Jésus qui ne sont évoqués dans aucun texte du Nouveau Testament. » Dès le IIe siècle, on célébrait le 6 janvier le baptême du Christ et la « manifestation » en grec « épiphaneia » de sa divinité, sans attribuer à cette date aucune valeur d'anniversaire. Au IVe siècle, on célèbre à cette date à la fois la naissance de Jésus, son baptême et le miracle de Cana. Pourquoi le 6 janvier ? Selon divers auteurs du IVe et du VIe siècle, on célébrait dans certaines villes d'Orient la naissance du dieu Aïon, parfois identifié avec Hélios, le soleil, enfanté d'une vierge. Il s'agissait probablement d'un culte lié au solstice d'hiver. Sans doute, les responsables de l'Église ont-ils voulu, comme ils le firent souvent, christianiser des fêtes païennes, plutôt que d'obliger les populations à y renoncer. Fin de citation. Quand Jésus a-t-il débuté son ministère? Le prophète Daniel écrit « Il, loin, c'est-à-dire le Christ, fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Jésus devait donc prêcher l'Évangile pendant 3 ans et demi, la moitié d'une semaine symbolique, car pour la Bible, un jour prophétique est égal à 1 an. Daniel mentionne une semaine, une période de 7 ans, au milieu de laquelle le ministère du Christ devait prendre fin. Son ministère ne devait donc durer que 3 ans et demi. Nous savons que le ministère du Christ prit fin à la Pâque en l'an 31 de notre ère. Par conséquent, 3 ans et demi avant le printemps de l'an 31, nous amène au début de l'automne en l'an 27. La Bible révèle que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Dans ce verset, le mot « environ » est traduit du grec « osei », qui signifie « avais-tu ». Il faut savoir que 30 ans était l'âge requis pour débuter une fonction dans l'attente d'assignation. Moïse écrit « Compte les fils de Kehath parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans. » Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Si Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère, au début de l'an 27, il devait donc être né au début de l'automne en l'an 4 avant notre ère, soit 30 ans avant l'an 27. Un autre indice peut encore être décelé dans les divisions des classes des Lévites qui servaient au temple. À l'époque du Christ, le ministère d'Aaron à Jérusalem était divisé en 24 classes. Chaque classe avait un chef désigné par le sort, qui devait offrir quotidiennement les sacrifices du soir et du matin ainsi que l'offrande des parfums. À l'époque du roi David, ce ministère d'Aaron avait été divisé en 24 classes, car il y avait tellement de prêtres qu'il leur était impossible de servir tous en même temps. Chaque classe devait servir dans le temple pendant une semaine. Ensuite, elle était remplacée par la classe suivante. Ces 24 classes sont décrites dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 24. Les écrits juifs révèlent que ces classes prenaient leur service le samedi à midi jusqu'au samedi suivant à midi. C'est également ce que confirme l'historien Joseph, qui vécut à l'époque de l'apôtre Paul. Ces classes servaient donc 2 fois par an. La première classe débutait son service au cours de la première semaine de l'année sacrée. La deuxième classe servait au cours de la deuxième semaine et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 24 classes aient accompli leur service. Ensuite, en automne, la première classe reprenait son service à la première semaine de l'année civile et toutes les autres classes suivaient selon l'ordre prescrit. Chaque classe prenait ainsi son service 2 fois par an, ce qui couvrait les 48 semaines. À ces 48 semaines, il faut ajouter 3 semaines au cours desquelles toutes les classes étaient réunies et servaient ensemble au moment des grandes affluences à Jérusalem. Il s'agit de la semaine de la Pâque, la semaine de la Pentecôte et la semaine de la fête des tabernacles, ce qui totalise les 51 semaines du calendrier hébreu. Lorsque le calendrier réclamait un 13e mois, pour permettre aux saisons de tomber à leur temps fixé, les prêtres qui officiaient le 12e mois répétaient leur service au 13e mois. Ces informations nous sont précieuses, car l'identification de la classe en service dans le temple nous permet d'établir le moment de la venue au monde de Jésus. L'apôtre Luc révèle qu'un sacrificateur, Zacharie, servait dans le temple quand un ange lui apparut pour lui annoncer que sa femme déjà âgée mettrait bientôt un fils au monde, un fils qui s'appellerait Jean. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, Elle s'appelait Élisabeth. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Zacharie était de la classe d'Abia, ou Abija en hébreu, et il s'acquittait de ses fonctions selon le tour de sa classe, la huitième selon l'ordre repris dans 1 Chronique au chapitre 24. Il officiait au cours de la neuvième semaine. Pourquoi la neuvième et pas la huitième? Parce que la Pâque tombe au cours de la troisième semaine du premier mois, semaine au cours de laquelle, souvenez-vous, toutes les classes servaient ensemble. En l'an 5 avant notre ère, le premier Nisan, premier jour de l'année selon le calendrier hébreu, était un sabbat, le jour même où les sacrificateurs commençaient leurs fonctions. Cette date correspond au 6 avril du calendrier romain. Zacharie servait au temple au cours de la neuvième semaine et un simple calcul nous permet d'établir qu'il s'y trouvait du 27 Ivar au 5 Sivan, soit du 1er au 8 juin. Zacharie ne pouvait pas revenir chez lui à la fin de son service, car la semaine suivante était celle de la Pentecôte. Il devait donc rester une semaine de plus pour officier avec tous les autres prêtres. Ce service collectif le maintint au temple jusqu'au 12 Sivan ou 15 juin. C'est alors qu'il put rentrer chez lui. Luc écrit « Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui ». L'ange avait annoncé à Zacharie qu'il serait muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. » On peut comprendre que Zacharie ne souhaitait pas rester longtemps dans cet état, et comme il était avancé en âge, il souhaitait certainement connaître ce fils qu'il n'espérait plus, sa femme Élisabeth étant stérile. Tout indique que l'enfant fut conçu rapidement, et que 6 mois plus tard, Élisabeth, la femme de Zacharie, se trouva dans son 6e mois de grossesse, alors que Marie, elle, débutait sa grossesse. Élisabeth aurait conçu au cours de la semaine du 12 au 19 Sivan, entre le 15 et le 22 juin. Un enfant reste approximativement dans le sein de sa mère pendant 9 mois et 10 jours. En ajoutant ce délai au 16 Sivan de l'an 5 avant notre ère, nous arrivons vers le 1er Nisan, 27 mars, en l'an 4 avant notre ère. C'est donc aux environs de cette date que Jean-Baptiste serait né. Qu'en fut-il du Christ ? Luc écrit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Voici, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. En ajoutant 6 mois au 1er Nisan, nous arrivons au 1er Tichri. » Soit vers la mi-septembre de l'an 4 avant notre ère. Jésus serait donc né au début de l'automne et non un 25 décembre. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.